La meilleure façon d'exorciser ce qui m'effraie est d'y faire face de front et de prendre les mesures qui s'imposent. Mais il existe bien d'autres manières de confronter ces peurs. La plus répandue est de faire comme si elles n'existaient pas, ou alors de se convaincre qu'il n'y a rien à craindre. Mais ces pis-aller ne sont guère efficaces. Un autre moyen est de tourner en ridicule ce qui nous hante. C'est ce que beaucoup de gens font quand on leur parle des réalités de l'au-delà, et surtout du grand rendez-vous incontournable que nous avons tous avec le Créateur. Les non-croyants essayent de rabaisser le diable ainsi que Dieu en les incorporant à des chansonnettes et des jurons, mais ça ne les fait pas disparaître pour autant. Les jugements de Dieu sont bien réels et un jour, assez brusquement, tout ce qui est écrit dans le troisième volet de la vision de l'apôtre Jean va s'accomplir dans un enchaînement terrifiant. Le livre de l'Apocalypse comprend trois grandes parties de longueurs inégales. Jean était tranquillement sur l'île de Patmos où l'empereur l'avait déporté quand le Seigneur lui est apparu et lui a dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite, ce qui est le plan du livre. Ce que tu as vu est la vision du Christ ressuscité. Ce qui est décrit l'état des sept églises d'Asie qui est aussi la situation de l'ensemble du christianisme au travers des siècles. Ce qui va arriver est encore à venir et commence avec le chapitre 4 du livre. Il s'agit du jour du Seigneur qui commence avec l'enlèvement de l'Église, qui déclenche une période terrible de 7 ans de jugement qui est la tribulation. Elle est suivie du millénium et du jugement dernier. Ensuite, Jean brosse à très grands traits la nouvelle création constituée d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux et enfin l'état éternel. Actuellement, nous vivons dans la période appelée « ce qui est » et comme je l'ai dit, la meilleure façon d'exorciser les peurs suscitées par ce qui va arriver ensuite est de leur faire face. Or, pour échapper à tout jugement, qu'il soit sur la terre ou dans l'au-delà, il n'y a qu'un moyen, c'est de se réfugier en Jésus-Christ. Dans un sens, ce qui va arriver ensuite ne concerne pas les croyants. C'est vrai qu'à lire ce que Dieu réserve à l'humanité, à commencer par les cavaliers de l'Apocalypse, il y a de quoi être terrifié. Cependant, ces jugements auront lieu après l'enlèvement de l'Église, qui inclut tous ceux qui ont véritablement accepté Jésus comme leur sauveur. Les croyants authentiques n'ont donc rien à craindre, car ils seront délivrés. Le jour du Seigneur, encore à venir, marquera le point culminant du jugement qui mettra fin au jour de l'homme, au temps des nations et au règne de Satan sur terre. Pendant la tribulation, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, l'agneau, reprend possession de la terre qui avait été donnée à l'homme, mais qui lui fut ravie par Satan. L'ouverture des 4 premiers sceaux correspond à l'apparition des cavaliers de l'Apocalypse. Le premier chevauche un cheval blanc et sa mission est d'apporter sur terre une fausse paix. Elle a été annoncée par l'apôtre Paul qui écrit « Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux » comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. C'est pendant l'activité du premier cavalier que des pseudo-artisans de paix et autres faussaires spirituels foisonneront. Jésus a dit à ses disciples, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse est de couleur rouge feu et sa mission est de faire en sorte que les hommes s'entretuent. Ça ne lui sera pas difficile parce que le cœur de l'homme regorge de vanité, de méchanceté et de haine. Il lui est donc tout à fait naturel de vouloir faire du mal à son prochain. Une majorité de gens pensent que si le monde se débarrassait de tous les engins à tuer, si toutes les armes étaient détruites, il n'y aurait plus de guerre et du coup on aurait forcément la paix sur terre. Mais cette idée qui flotte dans l'air est équivalente à croire au Père Noël. Il y a toujours eu des conflits parce que faire la guerre est dans le cœur de l'homme. Et à moins de changer ce cœur méchant, rien n'empêchera les hommes de se battre. Réfléchissez. Caïn, le premier homme qui est né de parents humains, a tué son plus jeune frère, Abel. Le troisième cavalier chevauche un cheval noir couleur de deuil. Sa mission est d'apporter la famine sur terre avec tout son cortège de calamités qui sont les conséquences normales de la guerre. Le quatrième cavalier est le plus sinistre. Il chevauche un cheval de couleur verdâtre et il est suivi du séjour des morts qui joue le rôle du fossoyeur qui débarrasse les cadavres derrière la mort. Guerre, famine et catastrophes naturelles font disparaître le quart de l'humanité et ce n'était que les jugements préliminaires. L'ouverture du cinquième sceau révèle ceux qui sont morts martyrs aux mains de l'Antichrist et qui crient vengeance. Avec l'ouverture du sixième sceau, nous entrons dans la seconde moitié des 7 ans de tribulation. Il déclenche des catastrophes naturelles sur terre et dans le ciel d'une ampleur faramineuse. Cette fois-ci, tous les hommes de toutes les nations sont terrorisés. Même les plus durs sont obligés de reconnaître que Dieu est à l'origine de ces calamités. Ce jour-là, ils crient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister ?» Excellente question, car il reste un septième sceau qui inclut 7 sonneries de trompettes, chacune déclenchant de nouveaux jugements. Puis viendront encore les 7 coupes de la colère de Dieu qui font partie de la 7e trompette. Tous les châtiments encore à venir ne sont pas simultanés, mais se suivront l'un après l'autre à un rythme à perdre haleine. Nous avons bien 3 séries de 7 jugements en tout, mais comme elles sont imbriquées les unes dans les autres, en réalité il n'y a qu'une seule série de 7, mais en 3 étapes. Le 7e sceau contient les 7 trompettes, et la 7e trompette contient les 7 coupes. Le 7e sceau est donc très important, étant donné qu'il renferme toutes les trompettes et toutes les coupes, c'est-à-dire tous les événements, à partir du chapitre 8 jusqu'au 19. Lorsque l'agneau ouvre ce 7e et dernier sceau du petit rouleau, qui est le titre de propriété de la terre, il n'appelle pas un nouveau fléau sur terre, mais déclenche la série des jugements des trompettes. Pareillement, la 7e trompette n'est pas un châtiment individuel en soi, mais déclenche la série des coupes de jugement. Jean écrit « Puis je vis dans le ciel ». Un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. L'annonce des jugements des coupes produit d'abord des réjouissances dans le ciel, car ils vont conduire à l'arrêt total des activités de Satan qui sera enfermé et à l'établissement du règne du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Tous les jugements contenus dans le 7e sceau sont de durée variable et se produisent pendant la seconde moitié des 7 ans de la tribulation. Je commence maintenant à lire le chapitre 8 du livre de l'Apocalypse. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ 1/2 heure. Verset 1. Nous étions à un camp de jeunes et pendant une pause, un groupe de filles avait visiblement une discussion vive avec un garçon car il faisait beaucoup de bruit et les filles semblaient fâchées. Avant qu'il ne s'étripe pour de bon, ils sont allés voir le prédicateur et le garçon lui a dit « Savez-vous qu'il n'y aura pas de femme dans le ciel ?»« Non, je l'ignorais », a-t-il répondu. « Et d'où tires-tu ce renseignement ?» Eh bien, du livre de l'Apocalypse où il est dit qu'il y aura un silence d'une demi-heure. Or, un silence aussi long ne serait pas possible s'il y avait des femmes. En réalité, ce passage ne doit pas être pris à la légère et sur le ton de la plaisanterie, car il est très sérieux. Du haut du ciel, et en tant que juge suprême de toutes les créatures de l'univers, Jésus s'apprête à diriger une fanfare retentissante composée de 7 trompettes qui vont se faire entendre jusqu'aux extrémités les plus reculées de la terre. En tant qu'héritier légitime de ce monde, l'agneau a pris le rouleau, qui est le titre de propriété de la terre, de la main du Père. Il a déjà brisé les 6 premiers sceaux, ce qui a déversé divers jugements sur le monde. Dès que le 7e sceau est brisé, le rouleau est totalement ouvert, mais son contenu ne nous est pas révélé, et seulement marqué par une demi-heure de silence pesant. Jusqu'ici, on a entendu beaucoup de bruit dans le ciel. Jean a dit que du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Chacun des 4 êtres vivants, jour et nuit, ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant !» Tandis que les 24 vieillards se sont joints à eux, entonnant un cantique de louange en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Jean a aussi entendu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Ensuite, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, un nombre incalculable d'anges, et enfin toute la création ont loué Dieu fortement. Puis, quand l'agneau a ouvert le premier sceau, Jean a entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» C'est probablement aussi de cette même voix forte, même si le texte ne le précise pas, que se sont exprimés les 2e, 3e et 4e êtres vivants. L'ouverture du 5e sceau a fait entendre les martyrs qui criaient vengeance, et quand Jésus a brisé le 6e sceau, il y eut un violent tremblement de terre, ce qui a dû faire un immense vacarme. Pendant l'intermède entre les 6e et 7e sceaux, Jean dit qu'il a vu un autre ange et qu'il a crié d'une voix forte. Un peu plus tard, dans ce même intermède, Jean dit avoir vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Il proclamait d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Comme cette foule a été accompagnée par tous les anges, le son de leur voix à l'unisson a dû s'entendre jusqu'aux extrémités de l'univers. Mais maintenant que Jésus ouvre le 7e sceau, un phénomène tout à fait étrange et exceptionnel a lieu. Après tout ce bruit, et avant que la fureur des jugements à venir se déchaîne, c'est le calme avant la tempête. Un silence de mort s'installe sur la scène céleste. Pressentant la gravité des événements à venir, tous les êtres qui habitent le ciel restent bouche bée et figés sur place pendant une demi-heure pour marquer ce moment solennel. Le silence est lourd, l'attente intense et le suspense palpable. Le psalmiste écrit « Du ciel, tu fais entendre quel sera ton verdict, et la terre effrayée se tient dans le silence, quand toi, ô Dieu, tu interviens pour prononcer le jugement. » Quand Dieu se manifeste, la seule réponse acceptable est le silence. Les prophètes écrivent « L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui, que l'on fasse silence devant le Seigneur, l'Éternel, car il est proche le jour de l'Éternel, que devant l'Éternel toutes les créatures fassent silence. » Pour Jean, qui observe, Cette demi-heure a dû être angoissante. Chaque minute qui passe doit lui sembler durer une éternité. Le ciel, qui jusqu'ici résonnait des échos de louanges, est désormais parfaitement immobile, parce que l'heure du grand jugement a sonné. C'est maintenant que les martyrs seront vengés. Le mal sera puni, Satan sera vaincu et Jésus-Christ sera exalté. Je continue le texte. Alors, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Verset 2. Après la demi-heure de silence dans le ciel, Jean assiste à un nouveau phénomène lié au septième sceau. Il voit apparaître sept anges qui se tiennent devant Dieu. À cause de l'article défini, ce groupe d'êtres célestes est distinct de tous les autres. D'ailleurs, on les appelle parfois les anges de la présence. Le verbe traduit par « se tiennent » est conjugué au temps parfait en grec, ce qui veut dire que ces anges sont dans la présence de Dieu depuis déjà un certain temps. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Écritures mentionnent plusieurs rangs ou ordres d'anges. Il y a les chérubins, les séraphins, les archanges, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Ce groupe de sept anges semble former un ordre de rang supérieur. Il se peut d'ailleurs que Gabriel, qui est apparu aux futurs parents de Jean-Baptiste, fasse partie de leur nombre, car il s'est présenté à Zacharie en disant « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ». Mais les Écritures ne nous donnent pas plus de détails, ni le nom de ce groupe d'anges. Alors que Jean regarde, sept trompettes sont données à ces sept anges en prévision des châtiments que Dieu va infliger au monde. Comme cela a déjà été le cas pour les jugements des sceaux et le sera pour les coupes, ici les anges prennent part au jugement des trompettes. Cette participation angélique est tout à fait conforme aux enseignements de Jésus selon lesquels les anges joueront un rôle prépondérant dans les jugements de la fin des temps. Les trompettes sont les instruments de musique les plus importants des Écritures parce qu'elles sont associées à plusieurs catégories d'événements. L'Éternel a donné l'ordre à Moïse de faire fabriquer deux trompettes d'argent martelées pour convoquer la communauté et donner le signal du départ au camp que formaient les Hébreux. En fait, il y en avait quatre qui se trouvaient autour du tabernacle. Les trompettes servaient aussi en temps de guerre, pour les saintes convocations et les fêtes religieuses. On les utilisait aussi pour annoncer les nouvelles, acclamer les nouveaux rois et pour adorer Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit qu'une trompette annoncera l'enlèvement de l'Église. Ici, les trompettes sont associées au jugement des impies. Chaque fois que l'une des six premières trompettes sonnera, elle déclenchera un châtiment précis d'une sévérité plus grande que les jugements des six premiers sceaux, mais moindre que ceux qui seront infligés par les sept coupes. Les dégâts écologiques causés par les quatre premières trompettes sont impressionnants. On lit que la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte fut brûlée. Le tiers de la mer devint comme du sang, le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent, et le tiers des bateaux furent détruits. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux, et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. À la sonnerie de la cinquième trompette, Jean voit des démons se faire vomir de l'enfer pour aller tourmenter les hommes impies, mais ils n'ont pas le droit de toucher à ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu. Quand la sixième trompette sonne, quatre démons enchaînés sont déliés afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Enfin, le son de la septième trompette amène le jugement des sept coupes de la colère de Dieu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ces jugements seront encore plus intenses que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On n'a pas encore tourné un film d'épouvante qui puisse être comparé avec les jugements de l'Apocalypse.